Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI.
Invité aujourd'hui, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes.
Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger pour ce grand oral, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour, bonjour. Alexis. Et Adrien Gindre, TF1, LCI. Bonjour. En fin de première partie, dans notre rubrique La Question en Plus, c'est Dominique Sopo de SOS Racisme qui vous interpellera, Éric Ciotti. Et puis, nous retrouverons en fin d'émission, comme chaque semaine, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr. Pour questions nettes, vos commentaires, vos questions à Éric Ciotti, vous pouvez toujours réagir bien sûr en direct, hashtag le grand jury sur tous nos réseaux sociaux. Alors Éric Ciotti, nous concluons avec vous une semaine qui a agi comme un puissant révélateur des tourments qui traversent la droite depuis sa défaite retentissante en 2017. Tourment sur la ligne d'abord, lundi. Emmanuel Macron publie une tribune sur l'Europe avec des propositions qui séduisent une partie de votre électorat et que vous défendez dans votre propre rang à l'image d'un Jean-Pierre Raffarin, toujours membre des Républicains, qui a même été jusqu'à donner un satisfecit absolu au chef de l'État. Vous nous direz bien sûr ce que vous en pensez. Mais les Républicains ne sont pas les seuls à revendiquer la paternité de certaines idées avancées par le président. Marine Le Pen, elle aussi, revendique carrément une victoire idéologique. Voilà, vous voilà donc pris en tenaille, Éric Ciotti, entre La République En Marche et le Rassemblement National. Nous en parlerons aussi, bien sûr, dans cette émission. Mais ce n'est pas votre seul tracas au sein des Républicains, puisqu'un sondage paru cette semaine révèle la profonde faiblesse de Laurent Wauquiez dans l'opinion, une opinion qui le juge insincère. Une preuve de plus que le rassemblement de la droite et du centre autour d'un véritable chef est tout sauf une sinécure. Votre présence aujourd'hui donc tombe à pic. Vous êtes l'une des personnalités influentes des Républicains et vous avez aussi l'oreille de Laurent Wauquiez. Vous qui, en cas de victoire de François Fillon, deviez hériter du ministère de l'Intérieur. Il y a 2 ans à peine, une éternité en politique au regard de l'accélération des événements et de la crise des Gilets jaunes, bien sûr, 17e samedi de suite, hier, à Paris et en province. Et ce n'est pas fini. La première question vous est posée sur ce sujet par Adrien Gindre.
On va commencer par la dimension sécuritaire. Éric Ciotti en parlera du fond dans un instant. La semaine dernière, on a vu la mobilisation qui se tassait. Hier encore. En revanche, pour le week-end prochain, les Gilets jaunes promettent un mouvement d'ampleur. Au lendemain de la clôture du grand débat, la France entière à Paris pour lancer un ultimatum au gouvernement. Est-ce que vous redoutez cette journée de samedi prochain? Est-ce que vous considérez qu'il faut interdire les manifestations?
Éric Ciotti. Bien sûr, je redoute ce qu'on a vécu depuis 17 semaines maintenant. 17 semaines où la violence a contaminé, a modifié l'essence même de ce mouvement. Je le dis puisque j'en ai la fierté. J'ai soutenu ce mouvement au début. Ce mouvement,
vous le soutenez toujours ?
Il exprimait une saine colère. La révolte du peuple de France contre l'assommoir fiscal qu'il subit avec une pression de plus en plus forte depuis de trop nombreuses années. Et là, c'était avec l'augmentation des taxes, notamment sur le carburant, c'était la goutte, j'oserais dire, d'essence qui a fait déborder le vase. Mais après ce mouvement, il a été dévoyé. Il a été dévoyé par l'immixtion de groupuscules d'extrême gauche, voire d'extrême droite à l'intérieur, et puis il a été contaminé par la violence. Donc nous avons appelé, et dès le début, à l'apaisement, au calme.
Il faut interdire maintenant ?
En tout cas, il ne faut pas tolérer les manifestations qui ne sont pas autorisées. On est dans un état de droit, il y a des déclarations. Cela souligne qu'il faut qu'il y ait des responsables qui soient identifiés. S'il y a dégâts, s'il y a exactions, il faut qu'on puisse aller chercher
mais donc on
qui
accepte
en sont les responsables.
Déclarées.
Mais après, s'il y a une manifestation organisée, déclarée, moi ce que j'ai dit qu'on ne devait pas et que le gouvernement ne pouvait pas laisser prospérer cette situation. Vous savez,
mais est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce que vous jugez qu'il n'y a pas suffisamment de sévérité de la part du gouvernement aujourd'hui ?
Il y a eu au départ beaucoup d'erreurs, notamment le samedi 1er décembre, ce samedi qui a vu l'Arc de Triomphe pillé, attaqué, qui a vu des forces de l'ordre reculer sur la place autour de l'Arc de Triomphe, du général de Gaulle. On a vu ces images qui étaient insupportables.
Mais aujourd'hui, le gouvernement fait ce qu'il
faut. Affiché au monde entier. Donc il y a eu des erreurs de stratégie de maintien de l'ordre qui ont été répétées, multipliées de samedi en samedi. Et cette violence, elle a contaminé le mouvement. Mais je dirais que quelque part, elle a un peu servi le pouvoir. Parce qu'elle a altéré, bien sûr, le message de sincérité, très largement soutenu au départ par les Français, ce ras-le-bol fiscal, cette colère face à l'injustice, face à l'inefficacité du pouvoir, bah, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a eu tellement d'erreurs au départ qui ont été commises. D'ailleurs, j'ai vu que dans une interview hier au quotidien La Provence, Christophe Castaner reconnaissait qu'au début, notamment la fan zone, ce qui était totalement ahurissant, tous les spécialistes, tous les policiers l'avaient alerté, c'était un choix politique de dire on fait un espace de lieu préservé, il n'y avait personne à l'intérieur et les exactions à l'extérieur. Donc on avait obligé des forces mobiles, celles qui assurent la sécurité en cas de manifestation, à être statiques. C'était totalement stupide. Ouais. Oui, mais ça fait 17 semaines que ça dure et on ne peut pas dire que l'efficacité du retour à l'ordre soit au rendez-vous.
Alors, vos propos là-dessus pourront faire certainement réagir, puisque vous dites que ça a peut-être servi le pouvoir.
Bah, oui, politiquement, la violence a servi le pouvoir, bien sûr, parce qu'il y a eu un réflexe légitime de nos concitoyens qui ont rejeté ces images et qui ont considéré que le pouvoir était un rempart un peu contre ces exactions.
À l'inverse, c'est une sorte de voix qui s'élève pour s'inquiéter des violences supposées policières. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent il faut qu'on fasse attention, il y a la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui réclame une enquête approfondie sur les violences policières. Est-ce que vous dites elle fait son boulot ou elle se mêle de ce qui la regarde pas ?
L'ONU devrait s'occuper des vrais sujets et pas s'occuper de ce qui se passe dans une grande démocratie comme notre pays. Les policiers, les gendarmes ont une mission, celle d'assurer l'ordre public. Ils sont aujourd'hui les garants de la protection
de cette force,
de nos libertés. Non, je ne le crois pas. Ils ont répondu à une situation où ils étaient confrontés à une extrême violence. Moi, je veux rendre hommage au sang-froid des policiers et des gendarmes. Il n'y a pas eu une victime dans les opérations de maintien de l'ordre. Dans quel pays on aurait eu ce résultat ? Il y a eu des victimes, bien sûr, beaucoup. Il y a eu trop de victimes. Il y a eu, parmi les manifestants, 2000 blessés. Il y a eu 1300 blessés. 1300 blessés parmi les forces de l'ordre. Il y a eu 11 morts, mais dans le cadre essentiellement d'accidents sur les ronds-points. Moi, je rends hommage au sang-froid, à la maîtrise, au professionnalisme des policiers et des gendarmes qui ont assuré le maintien de l'ordre.
Est-ce que vous saluez aussi son action, puisque vous, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur?
Nous soulignons en tout cas il y a quelques instants les difficultés qu'il y a eu très graves au début, qui ont permis de voir dégénérer ce mouvement. Le premier samedi, rappelez-vous, les manifestants étaient très proches de l'Élysée. Le second, il y a eu cette fan zone. Alors,
donc vous dites que les policiers font bien leur travail, ils sont mal commandés.
Ben, il y a eu, en tout cas, c'est un débat qui a traversé les rangs des policiers et qui a soulevé le fait qu'on change de doctrine. Donc il y a eu au départ des erreurs, je les avais pointées d'ailleurs à l'Assemblée nationale.
Mais les images que vous voyez de victimes, de blessés par LBD, ça vous choque ou pas, par lanceur de balles de défense ?
Le lanceur de balles de défense, c'est le dernier moyen avant l'utilisation d'une arme létale. Donc ces armes non létales, en tout cas la létalité altérée, elles sont indispensables pour éviter qu'il y ait des morts dans les manifestations.
Et est-ce que vous demandez aux manifestants qui continuent de rentrer chez eux, est-ce que vous leur dites maintenant c'est bon,
nous l'avons dit, et Laurent Wauquiez lui-même, et c'était en décembre, avait appelé à ce que les manifestations violentes cessent. Et en disant aujourd'hui, le message des Gilets jaunes, la colère des Français, elle a été entendue et elle ne peut pas et elle ne doit pas s'exprimer par la violence.
Alors, allons dans le fond maintenant du débat, puisqu'il y a des propositions qui émergent. Nous allons vous en soumettre pour un pour ou contre. Éric Ciotti, c'est le moment de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Alors, pour ou contre, Éric Ciotti, réindexer les retraites sur l'inflation ?
Naturellement pour, mais permettez-moi quand même de faire un commentaire. À quoi assistons-nous ? On voit aujourd'hui M. Guérini, responsable d'En Marche, dire qu'il faut remettre l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Bien sûr. Mais qui a rompu cette indexation, si ce n'est la majorité En Marche ? Donc, il joue aux pompiers pyromanes. On est dans une hypocrisie extraordinaire. On dirait qu'on recommence le quinquennat, que les deux années qui viennent de se dérouler, presque deux ans que M. Macron est président de la République, on les passe par perte et profit, que tous les dégâts qui ont été commis...
Ça veut dire qu'un certain nombre de choses ont été comprises malgré tout.
En tout cas, il y a des dégâts qui ont été commis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une proposition qui est mise sur la table par En Marche. C'est la correction d'une faute très lourde. Le pouvoir a pris deux cibles, depuis le début. Les retraités, avec l'augmentation de la CSG, les propriétaires, on y reviendra sans doute, et les automobilistes. Celui qui est retraité, propriétaire, automobiliste, il n'a pas gagné au loto macronien. Ils ont été matraqués fiscalement de taxes, d'impôts, et aujourd'hui, comme si rien n'était, M. Guérini arrive avec son plus beau sourire pour nous dire, eh bien, on va rompre l'indexation.
Continuons avec ces propositions.
Mais quand le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale a défendu une proposition de loi dans ce sens, quand nous avons défendu des amendements, naturellement, la majorité s'y est totalement opposée. Donc, qu'ils reviennent à la raison, bien sûr, cela va dans le bon sens.
Alors, continuons sur ce pour ou contre et continuons avec les propositions que M. Guérini va présenter cet après-midi au nom de La République En Marche. Proposition, dit-il, de loi citoyenne à l'initiative d'un million de personnes au titre des contributions donc de La République En Marche au grand débat. Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des propositions de loi citoyenne quand un million de personnes le souhaitent ?
Ça existe dans la Constitution ? C'est Nicolas Sarkozy qui a fait voter cette disposition.
Référendum d'initiative populaire, très compliqué.
Référendum d'initiative partagé. C'est la réforme constitutionnelle.
Mais là, on parle de proposition de loi citoyenne.
Très importante, dont on avait souvent minimisé la portée,
qui n'a jamais été utilisée.
Le président Sarkozy. Oui. Il y a aujourd'hui la nécessité d'avoir un double critère pour que ce référendum puisse avoir lieu, des signatures, 4,5 millions, et un nombre
mais
de parlementaires.
Les propositions de loi citoyenne, là c'est plus concret. Voilà.
C'est pour approuver, c'est l'étape pour approuver une proposition
donc
de loi
vous dites c'est bien
citoyenne. En tout cas, moi je suis favorable au recours plus fréquent du référendum.
Donc pourquoi pas.
Le référendum systématique d'initiative citoyenne, s'il porte en germe la destruction de la démocratie représentative, non, il y a un Parlement, et je crois qu'il y a un équilibre, il y a un président de la République, il y a un Parlement, ceux qui aujourd'hui ont cette responsabilité de légiférer, ce doivent être les parlementaires. Mais soumettre des propositions de façon plus fréquente au peuple, c'est l'esprit de la Ve République, c'est le général de Gaulle. Alors, je crois qu'on a peut-être un peu trop quitté ce pilier institutionnel qu'avait voulu le général de Gaulle.
Éric Ciotti, une meilleure prise en compte du vote blanc.
Moi, je trouve que c'est un gadget. Voilà, le vote, c'est choisir. On décide, on élit, on prend position. Le vote blanc, c'est ne pas décider. Eh bien, on ne peut pas faire avancer un pays en ne décidant pas. Sincèrement, je ne vois pas ce que la reconnaissance du vote blanc va apporter. Est-ce que ça va apporter du pouvoir d'achat à ceux qui aujourd'hui en manquent ? Est-ce que ça va apporter plus de droits à ceux qui en sont privés ? Est-ce que cela va apporter plus de justice ? Je dis gadget.
Alors, moi, c'est clair que le cumul d'un mandat politique parlementaire et d'une activité professionnelle rémunérée.
L'interdiction.
D'un mandat politique parlementaire.
Je crois que ce serait une erreur profonde qui est contraire à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu cette nouvelle majorité complètement coupée des réalités. Ne connaissant même pas le terrain, les électeurs, les contours d'une circonscription. Pourquoi ? Parce que la fin du cumul des mandats a créé ce type d'élus totalement étranger à ce qui se passe
ça,
sur le terrain.
C'est le cumul des mandats politiques. Oui. Là, on parle d'une activité professionnelle. Ça peut reconnecter.
J'ai bien compris cette question, mais priver les parlementaires de tout contact avec la vie économique, avec ceux qui travaillent, c'est une erreur profonde.
C'est les prévenir de conflits d'intérêts.
On va faire une caste d'élus. Les parlementaires seraient les seuls qui ne pourraient pas être maires ou présidents d'une collectivité. Et les parlementaires seraient les seuls dans le pays qui ne pourraient pas travailler. C'est stupide. C'est stupide.
Vous ne craignez pas les conflits d'intérêts ? C'est pas une manière justement de les éviter ?
Il y a des dispositifs aujourd'hui, et croyez-moi, ils sont très nombreux, qui permettent de lutter contre les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on est passé au scanner manière en permanence, partout. Donc les conflits d'intérêts, ils sont scrutés, mais priver un parlementaire de la possibilité d'avoir une activité, un chef d'entreprise de devenir parlementaire, un médecin de devenir parlementaire, je trouve que c'est ridicule et que ça serait un recul de la démocratie. Regardons ce qui se passe sur le cumul. On voit que nos concitoyens changent d'avis. On leur avait dit, c'est François Hollande qui leur avait vendu cette illusion.
Mais parce que vous êtes pour le retour du cumul des mandats ou pas, Éric Ciotti, pour le coup ?
Moi, je pense...
Député-maire.
Oui, je pense que pouvoir être député-maire serait une bonne chose qui permettrait d'avoir ce lien historique entre le territoire et le Parlement. Vous savez, on ne remet pas...
Ça ne va pas à l'encontre de l'histoire, du mouvement, justement,
et des
souhaits des Français.
Remettre en cause l'histoire, ça a toujours des conséquences. L'histoire de notre République, ce sont des collectivités ancrées, les départements, les communes, et ce sont des élus qui représentaient ces collectivités qui ont aussi pu représenter l'ensemble de la nation au Parlement. Je crois qu'on s'en est pas mal porté. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je vois certaines prises de position de mes nouveaux collègues du Nouveau Monde en Marche, je crois qu'ils auraient eu une expérience des collectivités. Je crois que ça leur aurait pas fait de mal.
Dernière proposition de ce Question Express, publier l'origine des dons aux partis politiques.
Oui, pourquoi pas, ça aurait été utile pour la campagne d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, parce qu'on aurait connu la liste de ses donateurs.
Est-ce que vous allez faire vos propres... Parce que là, on vient de parler des propositions de La République En Marche et de Guérini. Est-ce que vous allez faire vos propositions, les Républicains, en disant, voilà, sur la table, nos propositions à l'issue du grand débat ?
Absolument, nous y avons travaillé. C'est d'ailleurs un petit groupe associant des parlementaires, des élus locaux, dirigé par Annie Genevard, notre secrétaire générale, qui, à la demande de Laurent Wauquiez, a travaillé sur ces questions.
Vous-même, vous avez fait des grands débats, vous ?
Nous formulerons... Moi, j'ai participé hier dans la Fédération des Alpes-Maritimes que je préside, avec Michel Tabarot. Nous avons réuni 500 personnes. On a échangé pendant plusieurs heures. Donc, il y aura cette contribution des Républicains dans les jours qui viennent, en tout cas avant la clôture du grand débat.
Sur les impôts, Adrien Gendre.
On voit bien que dans ce grand débat se pose une problématique, la question de la pression fiscale et la question de la place des services publics dans le pays. Sauf que, difficile de faire les deux, baisser les impôts, augmenter la présence des services publics. Vous pensez qu'on peut ? Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que les Républicains feraient ?
Parce que vous confondez dépenses...
Enfin, ils l'ont jamais fait jusque-là.
Vous confondez dépenses publiques et services publics.
On a surtout du mal à voir quelles sont les bonnes idées.
Quelques secondes, cette révolte... En tout cas, ce mouvement des Gilets jaunes, il est parti d'un ras-le-bol fiscal. La France a gagné en 2018 la Coupe du Monde de football. Ça ne vous a pas échappé. Mais ce qui vous a peut-être échappé, c'est que nous avons gagné aussi la Coupe du Monde des impôts et des taxes. La France est le pays au monde où les prélèvements fiscaux sont les plus élevés, sont les plus lourds.
Et vous y avez participé quand vous étiez au pouvoir.
Pourquoi ils sont les plus lourds ? Parce que parallèlement, les dépenses publiques sont parmi les plus élevées, en tout cas dans les pays de l'OCDE, les plus élevées en Europe. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce double mouvement. Et je dirais, je commencerai presque par baisser les impôts. Mais parallèlement, bien sûr, il faut baisser les dépenses publiques. On est le pays d'Europe qui a le plus de dépenses publiques. Et on est celui, et c'est encore montré par le grand débat, où les services publics voient leur qualité se dégrader.
Oui, mais on a aujourd'hui et concrètement, donnez-nous des exemples. En quoi vous coupez ?
Il faut s'attaquer à la bureaucratie. Nous avons en France 5,5 millions en gros d'emplois publics. Mm-hmm. 5,5 millions d'emplois publics. Alors là, vous allez me dire, mais vous allez supprimer des policiers, vous allez supprimer des gendarmes, vous allez supprimer des infirmières. Il y a 250 000 policiers et gendarmes en France, il y a 300 000 personnels infirmiers dans l'hôpital public. Allez, en gros, ça fait 550 000, donc 10%. Alors, on nous cite toujours cet exemple. Le reste, il y a des enseignants, bien sûr, mais le reste aussi, on a bâti un vaste système...
Mais les autres, ils servent à rien.
On a bâti un vaste système bureaucratique. On peut faire des économies sur les agences, on l'a vu, sur la multiplication de ces autorités indépendantes avec des centaines d'emplois qui ont été créés. On peut faire des économies sur l'organisation de l'État. L'État doit évoluer.
Mais la fin du statut, par exemple, de fonctionnaire public à vie, de la fonction publique à vie, par exemple.
Ce qui doit nous heurter collectivement, c'est qu'on a de plus en plus de fonctionnaires. Depuis le début des années...
Et dans les collectivités territoriales, notamment.
Bien sûr, et notamment du fait, vous savez, où il y a eu le plus de créations de fonctionnaires, ce sont dans les intercommunalités. On nous disait que ça allait faire des économies d'échelle. C'est l'inverse qui s'est passé.
Et donc, ce n'est pas l'État qui doit supprimer ses fonctionnaires, ce sont les collectivités territoriales.
Tout en enlevant du pouvoir au maire. L'État doit faire bien entendu des économies.
Vous parlez de quelques centaines dans les agences, mais on n'a toujours pas compris au niveau de l'État, où étaient les suppressions.
Je vous ai dit 5,5 millions d'emplois publics dans les trois fonctions publiques, hospitalières, territoriales et État. En tout cas, dans la fonction publique d'État, il y a des marges de manœuvre considérables. Il peut y en avoir aussi dans les collectivités.
C'est-à-dire que vous avez de moins 10% de fonctionnaires en moins, c'est quoi ?
J'ai présidé pendant 9... Voilà, c'est
10%, c'est ce que vous disiez, 10%.
J'ai présidé, c'est ce qu'on me proposait dans le programme présidentiel, moi je ne me renie pas, j'ai présidé pendant 9 ans le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Quand je suis arrivé, il y avait 5300 fonctionnaires. Quand je suis parti du fait du cumul des mandats et quand j'ai transmis le relais à mon successeur Charles-Ange Génésie, il y avait 4300 fonctionnaires. On a fait des économies, j'ai augmenté le temps de travail. Donc si on a la volonté, aujourd'hui depuis 2 ans, M. Macron n'a pas diminué d'une unité le nombre de fonctionnaires en France. Contrairement à ce qu'avait fait, ce que nous avions fait lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, où il y avait une diminution de 150 000 emplois dans la fonction publique d'État.
Alexis Brézé.
Question qui a agité l'actualité ces derniers temps, l'affaire du voile pour le sport qui avait été commercialisé par Decathlon, puis qui finalement l'est plus. Beaucoup de voix, notamment républicains, se sont élevées contre
la mienne.
Dont la vôtre. La question est, et tout le monde le dit, la commercialisation est-elle légale ? Question, est-ce qu'il faut changer la loi ? Parce qu'une fois, est-ce qu'on peut condamner quelque chose qui est légal ?
Eric Ciotti.
Ce qu'il faut changer, c'est une certaine complaisance avec la montée du communautarisme.
Ça oui, mais déjà rien que... Mais
il faudra aller, moi j'ai déposé des propositions de loi, beaucoup plus fortement vers une laïcité que je souhaite, plus exigeante. Aujourd'hui, on a un problème. On a un problème avec l'islamisme. On a un problème avec le communautarisme islamiste qui veut, à force de prosélytisme, imposer un mode de vie qui n'est pas celui dont nous avons hérité. Et moi, je souhaite aujourd'hui que notre pays, dans sa diversité, soit fidèle à son histoire, à cette civilisation qu'évoquait Laurent Wauquiez, qui a des origines et des racines
déclarations d'intention judéo-chrétiennes. Mais concrètement, on fait quoi ?
Mais concrètement, on adopte une position très ferme pour faire en sorte que, notamment, moi, j'ai déposé une proposition de loi pour faire en sorte que les usagers des services publics, aujourd'hui, il y a une neutralité qui est imposée par la Constitution pour les agents du service public. Ça, c'est un principe, il est respecté, mais je souhaite que les usagers aussi du service public, eh bien, soient contraints aujourd'hui, soient invités par la loi à observer une neutralité, parce qu'on n'impose pas aux autres,
ça veut dire qu'on ne pourra pas aller à la sécurité sociale avec une kippa ou avec un voile.
Absolument, absolument. On l'a fait pour l'école de la République. C'est cette grande loi de 2004 qu'avait porté Jacques Chirac sur la proposition de François Baroin. Cette loi, elle a été, à l'époque, on disait qu'elle serait inapplicable. Elle a été respectée. Et elle a eu ses résultats.
Par exemple, pardon,
c'est la loi.
Bien, ça vaut pour les transports, ça ?
C'est la loi sur la burqa qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy. Donc moi, je souhaite qu'on aille plus loin. Et je veux aujourd'hui, je le dis avec une certaine force, parce qu'on a eu ce débat il y a 15 jours à l'Assemblée nationale. J'ai porté un amendement qui, si j'en crois la presse, a soulevé un espèce de schisme dans la majorité.
C'est-à-dire que le ministre était d'accord, c'était pour interdire aux accompagnantes scolaires de porter, par exemple...
Voilà, c'est la question des sorties scolaires. Dans l'école, les enseignants, naturellement, sont restreints à la neutralité, les élèves aussi, ce qui n'est pas le cas des parents. Donc il y a une espèce de vide juridique. Luc Châtel, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, avait rédigé une circulaire très courageuse et très précise. Depuis, il y a eu un avis du Conseil d'État qui laissait la possibilité de l'interdiction, mais uniquement dans les mains
des
chefs d'établissement. Donc
j'ai
fait cette proposition.
Le ministre Blanquer est d'accord.
Manifestement,
et la majorité en marche n'est pas d'accord.
Était d'accord. Et puis, il y a eu une espèce de révolte d'une partie de la majorité, avec des voix dans cette majorité, comme M. Taché, qui, à plusieurs reprises, s'est érigé en porte-parole de l'islamo-gauchisme, il faut le dire. Et moi, j'attends toujours...
Taché, c'est un islamo-gauchiste.
Alors, Aurélien Taché,
il a été le porte-parole...
Taché, qui a comparé, mais qui s'en est expliqué ensuite et qui est revenu sur ses propos...
L'histoire du serre-tête
est ahurissante. Avec le port d'un voile.
Ahurissante. On avait déjà vu Mme Schiappa comparer les participants à la manif pour tous à des terroristes islamistes.
Ils ont été excusés.
On a vu M. Taché faire cette comparaison douteuse et extrêmement scandaleuse. Moi, j'appelle le président de la République aujourd'hui à intervenir dans ce débat. On ne peut pas laisser monter ce communautarisme.
Parce que vous,
ce
dites, vous avez dit l'islamo-gauchisme. Donc vous dites En Marche, c'est travaillé par l'islamo-gauchisme.
Bah, il y a dans les rangs d'En Marche, bien sûr, c'est le cas à l'Assemblée nationale, il suffit de lire la presse, il y a deux tendances qui s'opposent. Il y a une tendance qui est aujourd'hui prisonnière du communautarisme, qui refuse toute forme de laïcité. Quand Manuel Valls était membre du groupe, il a plusieurs fois, et c'était un républicain auquel je veux rendre hommage, parce que sur cette question de la laïcité, il a toujours été irréprochable et il a toujours eu un courage remarquable. C'est un sujet majeur pour notre
pays. Qu'est-ce que vous demandez, qu'on revienne, soit très clair, qu'est-ce que vous demandez au président de faire un discours solennel sur la laïcité? C'est vrai qu'on l'attend. Est-ce que c'est ça que vous demandez, qu'il s'adresse aux Français sur la laïcité?
Je souhaite qu'il érige des digues contre la montée du communautarisme islamiste.
Mais comment on est aujourd'hui
on réforme la loi de 1905
Non, sûrement pas. Au contraire, réformer la loi de 1905, ce serait ouvrir des brèches. C'est plutôt, si j'ai bien compris ce qu'il souhaitait, je crois qu'il faut réaffirmer la primauté d'un modèle républicain laïque qui ne laisse pas aujourd'hui... Vous savez, vous avez sans doute lu le livre de Houellebecq. Eh bien, quand on regarde avancer certains sujets, quand on regarde certains territoires, on voit que la République n'a plus la force, dans certains lieux, d'imposer ses lois.
Soumission,
regardez ce qu'a dit Gérard Collomb, c'est pas moi. Vous pouvez me taxer d'extrémisme ou d'avoir des positions trop fermes. Gérard Collomb, et c'était son meilleur discours, peut-être parce que c'était le dernier, quand il a quitté la place Beauvau, a décrit une situation extraordinairement préoccupante. De territoires liés aux narcotrafiquants, ça rappelle l'Amérique du Sud, est livré aux islamistes. Eh bien, depuis 2 ans, le président de la République détourne le regard, ne fait rien. On voit la montée de l'antisémitisme dans certains quartiers. On voit, après le rapport notamment de François Cornu-Gentil sur la situation de la Seine-Saint-Denis, qu'on ne fait rien avec beaucoup de détermination pour combattre cette montée. Il est temps de réagir et je demande au président de la République des actes. Les commémorations, c'est bien. Les grands discours, quand il y a des actes antisémites, c'est naturellement nécessaire, indispensable.
Est-ce que vous demandez...
Désormais,
on
avoir le courage.
Est-ce que vous demandez, quand vous dites pas de, quand vous
dites pas de cette situation,
quand vous dites pas de signes ostentatoires qu'on comprenne bien quand on utilise le service public, est-ce que c'est aussi dans les transports et à l'hôpital très rapidement?
En tout cas, à l'hôpital très clairement. À l'hôpital très clairement. On ne peut pas tolérer que quelqu'un choisisse son médecin à l'hôpital public
pour
des raisons.
D'accord. On vous a entendu, mais pas dans les transports. Mais pas
les transports, c'est sans doute plus complexe. Mais en tout cas, ce chantier, il faut l'ouvrir dans les services.
On vous a entendu, c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Ciotti, ici Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Jérôme Fourquet vient de publier une étude qui montre que 18% des nouveau-nés en France ont un prénom à consonance arabe. Que pensez-vous de cette réalité? Vous vous placez du côté de votre ami Éric Zemmour qui fustige ses prénoms et les populations qui les portent? Ou alors considérez-vous que ces prénoms sont aujourd'hui des prénoms français comme les autres?
Éric Ciotti.
En tout cas, l'étude de Jérôme Fourquet, elle a eu l'effet d'un véritable électrochoc et d'un révélateur. Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP, il nous dit que la société aujourd'hui française, elle est en voie d'archipélisation. Il y a un archipel français.
Il y a des communautés
qui s'ignorent. Il y a aujourd'hui une société qui est en millefeuille plutôt qu'être en silo. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Je le dis très clairement. Cette évolution des prénoms, elle est en tout cas contraire à ce qui se passait, notamment dans la grande vague d'immigration entre les deux guerres, où ceux qui venaient en France adoptaient plutôt un prénom d'origine
française. Regrettez ce recours?
J'ai pas à regretter ou à approuver. C'est un état des lieux qui doit nous rappeler aujourd'hui l'exigence d'intégrer très fortement et plus fortement
intégrer ou assimiler
les populations étrangères, assimiler.
On en reparlera.
Je préfère le terme, c'est ce qui a été utilisé pendant la campagne présidentielle.
Dans la seconde partie de l'émission.
Notre modèle républicain, ceux qui viennent en France, ils doivent épouser la culture française et l'histoire de France. Je le dis de façon privilégiée.
C'était votre réponse à Dominique Sopo de SOS Racisme. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury d'Éric Ciotti. À tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI.
Invité aujourd'hui, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI, Alexis Brézet du Figaro. Éric Ciotti, la situation en Algérie, les manifestations continuent contre Abdelaziz Bouteflika, contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Est-ce que vous comprenez ces manifestations? Et certains disent en France, on préfère garder ce pouvoir, sinon il y a une vague migratoire. Est-ce que ça peut être une bonne raison?
Je comprends naturellement ces manifestations. Je comprends de façon générale l'aspiration à la démocratie. Ce mouvement, il est sympathique, il est généreux, il exprime la volonté de la jeunesse, il est pour l'instant pacifique. Cela ne doit pas nous exonérer de réfléchir à la suite. Parce que si le pouvoir est renversé, il y aura forcément, on l'a connu ailleurs, on l'a connu en Égypte, on l'a connu en Tunisie, des tentatives de mainmise, notamment des islamistes. N'oublions pas ce qu'a vécu l'Algérie.
Il y en a encore, on dit qu'ils ne sont plus menaçants. Pour vous, ils le sont toujours,
parce
en Algérie.
Parce que le pouvoir a combattu avec une extraordinaire fermeté.
Mais quand vous dites réfléchir à la suite, ça veut dire intervenir d'une quelconque manière ?
L'Algérie est un peuple souverain, donc il n'y a pas naturellement d'intervention, mais il y a des liens. Nous avons une communauté algérienne très importante en France, 900 000 Algériens résidents en France, nationaux algériens ou binationaux, votent aux élections algériennes, sont inscrits, on cite des chiffres plus élevés, et puis il y a la situation spécifique qui est liée à notre histoire commune, notamment découlant des accords d'Évian, qui fait que sur les questions migratoires, les Algériens ont des droits particuliers.
Et vous craignez si ça tourne mal en Algérie, une vague migratoire ?
Il y a naturellement la possibilité, et on l'a vécu, je pense après les printemps arabes, on l'a vécu pour la Tunisie, je me rappelle dans mon département des Alpes-Maritimes, il y avait eu au début de 2011, c'était tout début de l'année 2011, une vague migratoire extrêmement importante.
Mais alors il y a quelque chose à faire ou on attend et on regarde ?
Il faudra être extrêmement vigilant et il faudra, si cette situation... moi, je souhaite que la démocratie...
Mais ce n'est pas un pouvoir démocratique. Vous dites que ce n'est pas un pouvoir démocratique, Éric Ciotti.
En tout cas, on peut dire que c'est un pouvoir qui, à bien des apparences, s'éloigne de la démocratie. On ne va pas jouer sur les mots. Et cette cinquième candidature, dans les conditions que nous connaissons, elle est aujourd'hui naturellement très, très étrange. Donc, il faut que l'Algérie retrouve le cours de son destin de façon démocratique. Mais l'Algérie, c'est un élément clé au Maghreb. C'est peut-être même un élément clé dans la lutte contre la propagation de l'islamisme. C'est un pouvoir qui a pris ses responsabilités en la matière et il faut que l'avenir soit conforme sur ce plan, à tout le moins, et qu'il ne mette pas en cause aujourd'hui ses équilibres. Il faudra regarder ces accords, cet accord d'Évian, à l'aune de cette évolution, sans naïveté de la part de la France.
Dernière question sur ce sujet. Est-ce que certains se sont émus de voir des binationaux manifester en France contre ce cinquième mandat? Est-ce que vous, ça vous a ému?
Ça ne m'a pas réjoui. Voilà, ça ne m'a pas réjoui. Moi, je crois que quand on est en France, on parle d'abord de la France et que l'expression aujourd'hui de revendications qui ne concernent pas directement notre pays, avec l'affichage de drapeaux qui sont autres que le drapeau tricolore, ce n'est pas quelque chose que je regarde avec enthousiasme, on va dire.
Alors, on passe au sujet des djihadistes.
Et notamment d'abord la question des prisons, puisque la semaine était marquée par l'attentat islamiste à la prison d'Alençon, Condé-sur-Sarthe. Deux surveillants grièvement blessés. Vous avez dénoncé le manque de moyens, on ne fait pas ce qu'il faut, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce que vous feriez de mieux?
Concrètement, on pourrait déjà construire des prisons et des places de prison. La France est un des pays.
Mais alors, en l'occurrence, il y avait des places dans cette prison-là.
Mais de façon générale.
Oui, mais.
Vous savez, on parlait des dépenses.
Il y a 7000 places de prison qui sont prévues.
On parlait.
En construction, Éric Ciotti.
Prévues.
Il faut du temps.
Prévues. On a aujourd'hui un peu plus de 70 000, 71 000 détenus hébergés, écroués. comme on appelle, et il y a 60 000 places. Il y a des maisons d'arrêt où il y a 200% de suroccupation. J'étais vendredi à celle de Nice, c'est 150%. Nous avions prévu, c'était en 2012, une loi de programmation qui permettait de 2012 à 2017 d'aller à 80 000 places de prison. C'était issu d'un rapport que j'avais rédigé à la demande du président Sarkozy. On était à l'époque à 56 000 places, on devait aller à 80 000. On est aujourd'hui à peine à 70, il y a eu 1400 places construites sous le quinquennat de Hollande. Et aujourd'hui, on est presque pas, on a engagé le premier tiers, même plus, du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a quasiment ouvert aucune place de prison.
Mais c'est pas
un problème de place, on nous dit 7000. Oui, mais ça conditionne, parce que la situation des prisons.
S'il y avait plus de places, il n'y aurait plus d'agressions ou plus de risques islamistes.
Il y aurait plus de moyens. Vous savez, il y a la question des moyens. Ça ne répond pas à tout. Je vais y revenir. Mais on parlait des dépenses publiques. Vous savez, on consacre, quand on engage 1000 euros de dépenses publiques en France, c'est 4 euros pour la justice et 2 euros et 1 euro et demi pour le pénitentiaire. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux et des menaces que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays?
Donc il faut mettre plus
ensuite,
de moyens, mais ça veut dire qu'il faut faire des économies ailleurs.
Bien sûr, mais vous savez, l'État régalien, la justice, la police, la sécurité, le ministère de l'Intérieur et la Défense nationale, cela représente 3% de la richesse nationale.
Dans l'affaire de Condé, le Premier ministre a reconnu une défaillance.
C'était 6%
et demi sous
le temps
du gouvernement
du général de Gaulle. Ça veut dire qu'on a, dans les 1000 euros que j'évoquais tout à l'heure, 60 euros pour le régalien, presque 600 euros pour les dépenses sociales. Bien, je crois qu'il faut un peu inverser la tendance, mettre plus de moyens. Tout ne se joue pas sur les moyens, mais je crois qu'il faut réarmer l'État. Sur la question des agressions que subissent notamment les gardiens de prison, les agents de l'administration pénitentiaire, 4000 ont été agressés l'année dernière. 4000 ont été blessés. Et là, on a une situation particulière. On a cette situation complètement ahurissante où on laisse un détenu extraordinairement dangereux, connu pour radicalisation, qui a appelé à la révolte après l'attentat du Bataclan, qui avait été condamné à 30 ans de prison parce qu'il avait assassiné un vieil homme de 89 ans qui a été un rescapé de la Shoah. Et on le laisse rencontrer sa femme dans une unité de vie familiale avec tout le confort, sans qu'on ait pu fouiller cette personne qui rejoignait l'unité de vie familiale.
Est-ce qu'il faut armer les gardiens de prison, Éric Ciotti ?
Il faut en tout cas qu'ils aient... Vous savez, après l'affaire de Vendin-le-Vieil, où il y avait l'année dernière, début 2018, un gardien qui avait déjà été agressé, il y avait eu un protocole d'accord avec la garde des Sceaux, qui prévoyait notamment qu'on aille plus loin sur les fouilles. Aujourd'hui, on ne peut pas fouiller au corps les détenus.
Donc ça, la loi qu'il faut changer, là, pour le coup.
Il faut changer la loi. Depuis 2009, systématiquement, à l'Assemblée nationale, je défends cet amendement. je l'ai encore fait il y a 3 semaines.
Alors la Cour de justice européenne ne va pas nous dire que c'est pas bien.
Oui, la Cour européenne de justice va nous le dire. Mais est-ce qu'on peut se résoudre à perdre aussi notre souveraineté juridique? Je parlais du réarmement budgétaire. Il faut aussi le réarmement juridique, parce que ce n'est pas compréhensible. On n'est pas face aux vieilles menaces. Il y a de nouvelles menaces. On a vu que, manifestement, l'épouse qui a été tuée dans l'assaut du RAID avait introduit une arme qui a servi à agresser les gardiens. On n'a pas de scanner millimétré. Je vous disais, je suis allé à Nice, à la prison. Il y a 550 détenus. Eh bien, il y a 10 gilets par lame, qui avaient été prévus après Vendin-le-Vieil, et à peine 20 gilets par balle. C'est ridicule. Donc, il y a la nécessité. On ne peut
on
pas réagir uniquement après les drames
Alors,
et les agressions.
Il y a aussi la question du retour des djihadistes en France.
Bien sûr.
Jamais ces djihadistes français qui sont actuellement en Syrie retenus, détenus, est-ce s'ils risquent la peine de mort, la France doit faire en sorte qu'ils soient jugés en France?
Non. Personnellement, je considère qu'ils ont tourné le dos à notre nation. Ils ont brûlé leur carte d'identité, leur passeport. Ils ont renié notre drapeau. Ils ont combattu la France. Ce sont des traîtres à la nation. Ils ont pris leurs risques, leurs responsabilités. Ils ont commis des crimes abominables. Eh bien, ils doivent être jugés. Là où ils ont commis
leurs crimes, ils seront
jugés en fonction des juridictions en place là où ils ont commis leurs crimes.
Et est-ce que cela vaut également pour les enfants qui sont là-bas ?
Je mettrai à cette position d'opposition très ferme au retour des djihadistes une nuance, et plus qu'une nuance, sur les enfants. Les enfants, naturellement, ne sont pas responsables des exactions de leurs parents. Donc, en fonction des accords judiciaires qu'il peut y avoir, nous pouvons, dans le cadre de la protection de l'enfance, récupérer des enfants. J'ai vu, là encore, dans ma ville, il y a une famille qui a des enfants de 4-5 ans. Naturellement, il faut protéger les enfants. Donc, les enfants, ils peuvent être pris en charge par nos structures. C'est les départements qui assurent cette responsabilité de protection de l'enfance.
Sur cette question, nous passons à celle des européennes. Adrien Jeanne, les élections du 26 mai prochain.
Avec deux textes cette semaine, une tribune du président de la République Emmanuel Macron dans 28 pays européens et une réponse de Laurent Wauquiez hier, publiée par nos confrères du journal Le Monde. Ce qui était très frappant, c'est de voir qu'il y a un mot, une thématique qui est beaucoup revenue, la question des frontières, de la protection. On a le sentiment qu'il y a comme une convergence entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez. Finalement, vous parlez le même langage ?
Je ne crois pas. Si vous avez bien lu les deux tribunes,
on a bien lu, mais ça nous a
quand
même interpellé.
Vous avez mesuré qu'elles sont complètement différentes.
François-Xavier Bellamy, votre tête de liste, dit qu'il y a sur certains points des choses qui peuvent être convergentes, sur lesquelles pouvez-vous retrouver.
Oui, mais
Jean-François Copia dit que le texte de Macron aurait pu être écrit par votre famille politique, par exemple.
Oui, mais il ne suffit pas d'écrire.
Ça fait beaucoup de monde tout de même.
Il ne suffit pas d'écrire un texte, il ne suffit pas de le déclamer. Il suffit. Ce que nous demandons, nous, ce sont des actes. Et regardez comment a été reçue la tribune de M. Macron. Vous savez, la meilleure réponse, c'est Annegret Kramp-Karrenbauer, la patronne de la CDU, qui a vocation à remplacer Angela Merkel, peut-être, dans le futur, qui, comme dirait ma fille qui a 10 ans, a administré un vent à Emmanuel Macron. En gros, elle lui a dit...
Ça intéresse beaucoup à la politique.
Avant, c'est pas forcément que sur la politique, avant de donner des leçons aux autres... regarde ce que tu fais chez toi.
Elle a
appelé à la responsabilité des possibles. En gros, elle lui a dit, quand on a aujourd'hui les impôts les plus élevés, le déficit budgétaire le plus élevé de la zone euro, le déficit commercial le plus élevé de la zone euro, on ne réclame pas plus d'étatisation, plus de mutualisation de la dette, plus d'irresponsabilité
sociale. Mais malgré tout, est-ce que vous reconnaissez que quand Macron parle maintenant de remise à plat de Schengen, de préférence européenne pour les marchés publics, ce que vous dites finalement, de frontières, est-ce que vous dites c'est un progrès, en tout cas dans les mots.
Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ?
Donc vous dites oui, c'est un progrès, il aurait dû le faire plus tôt.
Il ne vous a pas échappé que dans quelques jours, nous aurons des élections européennes. Et ça me rappelle la phrase de Clémenceau qui disait « On ne ment jamais autant qu'avant une élection, que pendant la guerre et qu'après la chasse ». Eh bien là, il est une nouvelle fois dans la déclamation des bonnes intentions. Il est, comme dans le grand débat, comme il a été pendant la campagne présidentielle, il est en campagne. Il est bon en campagne, il faut lui reconnaître, je lui reconnais bien volontiers.
Donc il est en campagne pour les Européennes
talent,
dans le cadre du grand débat.
Mais est-ce que ça fait avancer les choses ?
Mais c'est ce que pense Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, qui est quand même une figure importante de votre parti, qui a été Premier ministre sous Jacques Chirac, qui reste pour vous une référence.
Non,
ça
reste pas une référence pour moi dans notre famille politique.
Je parlais de Jacques Chirac. Ni Jacques Chirac, ni Jean-Pierre Raffarin.
Bien sûr, vous me parlez de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin a rejoint Emmanuel Macron depuis l'année dernière, nous le savons bien.
Mais il est toujours membre des Républicains.
Depuis l'élection présidentielle, en soutenant une autre liste que celle des Républicains.
Mais alors pourquoi il est toujours sur la liste ? Est-ce que vous pensez qu'il fallait l'exclure ?
De fait, il ne fait plus partie des Républicains. On ne peut pas soutenir une autre liste que celle des Républicains. Moi, je respecte le choix de Jean-Pierre Raffarin. Je le regrette, mais ce n'est pas un problème de notre famille politique.
Va être exclu ?
Ce n'est pas une sensibilité de notre famille politique. Jean-Pierre Raffarin, ça fait 2 ans qu'il ne participe plus à aucun des travaux de notre famille politique. Il n'est pas venu au Conseil national de Menton. Donc, il choisit, pour des raisons qui lui sont personnelles, et l'avenir nous démontrera peut-être un jour lesquelles.
C'est quoi ces raisons
personnelles ? Vous voulez dire, qu'il va être nommé quelque part ?
Nous verrons bien, parce que derrière tout ça, il y a souvent des postes, des places sur la liste, des responsabilités, des attentes.
Il n'y a pas de conviction.
Voilà. Je crois que dans tous ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de conviction. Et puis, il y a aussi ce que traduit finalement la stratégie de cette tribune. Il y a la volonté d'Emmanuel Macron d'installer ce débat entre lui et le chaos. Entre ce qu'il représenterait et puis les extrêmes. Et donc, il veut effacer, il veut désintégrer tous ceux qui incarnent une autre voix. C'est notre voix, cette autre voix, elle est portée par les Républicains. Elle est portée pour l'Europe par François-Xavier Bellamy, elle est portée par notre famille politique autour de Laurent Wauquiez. Nous, nous incarnons un autre chemin entre l'illusion macronienne, la politique des saltimbanques, de la communication, où on parle, où on parle, où on débat, mais où on n'agit jamais, où on n'a pas le courage de l'action, et l'aventurisme des extrêmes de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen. Nous sommes dans cette position de responsabilité.
Laurent Wauquiez également, Jean-Pierre Raffarin. Et visiblement, il n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez est la bonne personne
pour mener... Heureusement qu'il n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez.
Non, mais c'est sur la personne aussi.
Et je vous parlais,
en début d'émission des incertitudes de ce que dit l'opinion sur Laurent Wauquiez. Est-ce que vous, vous pensez que Laurent Wauquiez peut rectifier le tir? Est-ce qu'il est pour vous aussi, Éric Ciotti, le candidat naturel de la droite pour la présidentielle de 2022?
Mais pourquoi aurait-il à rectifier le tir?
On dit qu'il est arrogant, quand on dit que l'opinion dit dans les sondages qu'il est insincère,
quand on défend des convictions de droite républicaine dans un parti de droite républicaine, il faudrait rectifier le tir et défendre les positions de ses concurrents ou de ses adversaires. C'est pas ma conception de l'engagement politique.
Est-ce qu'il est le candidat, candidat pour 2022, Laurent Wauquiez?
En tout cas, on n'est pas dans le moment de 2022.
C'est ce qui structure le parti.
Le président de notre famille politique, c'est l'histoire sous la Ve République, a naturellement vocation à défendre notre famille politique à l'élection suprême. Mais il y aura bien des débats.
Mais il y aura des primaires ou non, finalement?
Bien des procédures.
On considère que ce n'est pas terrible, les primaires?
Moi, je ne suis pas très fan des primaires. Je crois que jusqu'avant les primaires, ça n'était pas mieux porté.
Mais c'est encore dans le statut.
Sous la Ve République, il n'y a jamais eu de primaires. On a toujours été présents au second tour. Et nous avons souvent gagné l'élection présidentielle. Le seul moment où il y en a
aujourd'hui,
eu...
Aujourd'hui, c'est dans les statuts.
Nous l'avons perdu, donc... On n'est pas complètement
pas sur les
obligé. C'est dans les statuts, mais les statuts...
Est-ce qu'il en faut pour les municipales?
C'est pas le débat aujourd'hui, mais...
Est-ce qu'il en faut pour les municipales? Rachida Dati est dans ce public. Elle donc dit qu'elle était aujourd'hui intéressée sur RTL cette semaine et dans les pages
du Figaro
également. Nous sommes partenaires aussi pour cela. Est-ce que Rachida Dati doit se soumettre à une primaire à Paris?
Écoutez, la question, c'est le mode de sélection des candidats. On a choisi cette semaine nos candidats sur la liste des élections européennes. C'est la commission d'investiture que j'ai l'honneur de présider. Après, moi, je vous le dis, je viens de le dire sur l'élection présidentielle, je ne suis pas un adepte forcené ou un fan tout azimut du système de primaire. Quand on est dans une formation politique, on assume ses responsabilités.
Vous votez Rachida Dati, si j'ai bien compris.
On choisit. Rachida Dati est non seulement une amie, mais ce n'est pas pour cela qu'elle a de très grandes qualités. C'est une élue d'expérience dans le 7e arrondissement. Après, ce débat, il appartiendra à la fois aux militants, aux élus de Paris, dans le dialogue, dans la concertation. Nous nous y attaquerons après les élections européennes.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Éric Ciotti. Alors on a eu énormément de commentaires pendant votre intervention et vraiment le fil rouge à chaque fois qui revient, le commentaire type qui revient, c'est le rapprochement possible entre les Républicains et le Rassemblement National. Et justement sur Facebook, Patrick vous interpelle directement. Lui, il a quitté les Républicains pour aller justement au Rassemblement National et il écrit « S'il y avait eu une alliance, je serais resté chez les Républicains ». Est-ce que vous estimez que les électeurs comme Patrick, eux, n'ont plus leur place au sein de votre parti ?
Éric Ciotti.
Je dis très clairement qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Ce débat, il n'a pas lieu d'être. Nous l'avons exprimé à maintes occasions, à maintes reprises. Laurent Wauquiez l'a répété. Nous l'avons tous répété. Et je le répète encore aujourd'hui avec force. Après, moi, je dis très clairement que notre responsabilité, c'est de faire revenir vers notre famille politique ceux qui, déçus, nous ont quittés. Ceux qui sont allés vers le Front National ou ceux qui, tout autant, sont allés vers Emmanuel Macron.
Justement.
Vous savez, on a perdu les élections, c'est parce qu'on n'était pas majoritaire, c'est parce que des électeurs se sont détournés de
nous.
À nous de les faire revenir, à nous de leur dire qu'il y a d'un côté l'illusion Macron, l'immobilisme, le en même temps qui a conduit à la situation aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons, qui n'est pas une solution glorieuse pour notre pays, et l'aventurisme de Madame Le Pen, avec la sortie potentielle de l'euro, avec la fragilisation
justement,
sur l'Europe,
on a un commentaire
avec
de
une
Catherine
politique économique
vous
d'extrême
répond
gauche.
Sur ce point-là.
Voilà, donc
elle vous
ça,
dit,
ça ne va pas.
Voilà, on a une internaute qui vous répond précisément là-dessus. Elle dit il n'y aura pas d'alliance tant que Marine Le Pen dirigera le Rassemblement National. Mais si c'était Marion Maréchal, est-ce que ça changerait la donne ?
Mais c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes les Républicains. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui a commencé sous la Ve République avec le général de Gaulle, en passant par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Tous ont bâti un édifice républicain solide dont nous sommes fiers, que nous voulons défendre. Nous sommes tristes de voir aujourd'hui notre pays abîmé. Nous sommes tristes de cette politique qui fait que la France est de plus en plus en marge. Elle n'est pas en marche, elle est en marge aujourd'hui du grand concert des nations qui réussissent. On est triste de voir la désindustrialisation du pays, 1 million d'emplois perdus. On est triste de voir notre modèle de santé qui se dégrade. On est triste de voir la paupérisation de certains quartiers, le communautarisme. Donc, il faut s'attaquer à ces sujets avec des solutions. Oui, mais l'enjeu, il est là. Et ce n'est pas le Front National
avant,
qui a les réponses, pas plus qu'en
le
marche.
Front Donc, le Rassemblement National
ce sont
qui est
les
présent,
Républicains qui ont
qui est
ces
très
solutions.
Présent dans les Alpes-Maritimes. Juste avant de revenir à la question nette, est-ce que quelque chose pourrait vous empêcher, vous, Rexy, d'être candidat au municipal à Nice en 2020 ?
Je répondrai, la question est bien posée, mais je répondrai à cette question dans quelques semaines, dans quelques mois. Je suis député de Nice.
Mais vous êtes plutôt enclin à vous présenter.
Je suis le seul député qui était, avec un adversaire en marche, réélu à Nice. Je défends ma ville, j'y suis né, je l'aime, je veux lui apporter le meilleur.
Pourquoi vous ne voulez pas le dire maintenant ?
Elle a des forces.
Tout ça laisse à penser que vous n'êtes pas étranger à une candidature.
À chaque étape suffit sa peine. Voilà, moi je crois qu'on n'est pas dans le temps aujourd'hui des élections municipales. Il y a une échéance européenne, il faut qu'elle se développe. Après, Nice a des atouts. Nice a connu des succès, y compris avec Christian Estrosi. Et puis Nice a des faiblesses. C'est la ville, la grande ville de France où l'endettement est le plus élevé. 4 000 euros par habitant. C'est même plus qu'à Paris.
C'est déjà
qu'à Paris.
Une partie d'un
il y a,
possible programme.
C'est la seule grande ville de France où il y a une baisse démographique, où il y a moins d'habitants. Il y a 40 000 habitants de plus.
Bon, vous sentez quand même bien sur les starting blocks.
Vous sentez pour y aller.
Donc il y a des difficultés. Et je répondrai à votre question avec des... La volonté d'apporter
et
le meilleur
et
de
choisir
la voie pour aider ma vie.
Ici, au micro d'Elisabeth Martichou, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors il y a un petit garçon de 5 ans qui a été privé de cantine et de garderie dans une école dans les Deux-Sèvres. La raison, parce qu'il y a eu un impayé de 126,90 euros. Indignation totale sur les réseaux sociaux. Il y a même une cagnotte qui a été lancée pour aider la mère de l'enfant qui est sans emploi et qui déclare vivre de l'allocation aux adultes handicapés. Certains ont demandé la mise en place de la cantine gratuite pour tous, pour le primaire. Ça a été d'ailleurs en 2015, ça a été retoqué par le Sénat, qui était à majorité à droite. Est-ce que vous comptez revenir là-dessus ?
Je ne suis pas pour la gratuité, parce que la gratuité serait une forme d'injustice. Je suis pour la solidarité, ce cas précis, mais il y en a sans doute d'autres. On peut y répondre par des mécanismes sociaux qui existent, et notamment par les allocations, par le RSA. Moi, ma collectivité, elle paye 1 euro pour chaque élève avec des situations sociales difficiles. Donc il y a une prise en charge partielle en fonction des revenus.
Vous avez entendu sur cette question. Toute dernière question, c'est une sorte de clin d'œil.
Oui, alors c'est est-ce que Nicolas Sarkozy va être le prochain président du PSG ? Ça a beaucoup agité les réseaux sociaux. D'après vous, alors est-ce qu'il va préférer la présidentielle ou plutôt la tête du PSG ?
En tout cas, il a un grand talent et c'est pas le seul. Au niveau footballistique, et peut-être que le PSG en aurait bien besoin.
Et la France, est-ce que la France pourrait avoir aussi encore besoin de Nicolas Sarkozy à sa tête aujourd'hui ?
En tout cas, la voix de Nicolas Sarkozy est une voix qui compte. Et ce qui se passe aujourd'hui souligne chaque jour un peu plus combien il a été un grand président pour la France.
Merci beaucoup Eric Ciotti, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, très bon dimanche et à la semaine prochaine.